Donc, bienvenue à notre 29e et quelque chose retraite. Et c'est 2019 est une année vraiment spéciale. Parce que ça me rappelle que ça fait 30 ans que j'ai été ordonné. Ouais. Et je vous le dis avec mon cœur, en toute sincérité. Et aussi très humblement, pour vous dire que ce chemin est merveilleux et que j'ai eu la chance de le cheminer pendant 30 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir, de bonheur, et je n'ai pas encore fini. Alors donc, bienvenue, surtout à nos nouveaux amis. Hier, j'étais très heureux par un show of hand, de voir combien de nouveaux nous avons avec nous. Et chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nos retraites, c'est un encouragement pour nous. Ça donne un sens à notre présence, pourquoi nous sommes ici. Et ça nous garde en contact avec... Lily, c'est juste une cloche de pleine conscience. Hier, dans son introduction, Lily vous avait mentionné que nous pouvons utiliser tout ce qu'il y a autour de nous comme cloche de pleine conscience. Et le son, ça peut être un son très agréable, ou ça peut être un son qui est... dans ce cas-ci, un peu irritant, n'est-ce pas? Mais c'est une cloche de pleine conscience, pareil. Et la cloche de pleine conscience, c'est quelque chose, un signal qui nous permet de nous rappeler à notre pratique. Et notre pratique, c'est quoi? Notre pratique, c'est de nous arrêter pour pouvoir être en contact avec ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un son qui arrive, on le perçoit, et il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et lorsque c'est un chant d'oiseau, ou lorsque c'est une brise fraîche en été, à travers des bambous, c'est un son très agréable, vous savez, lorsque le vent souffle dans les palmiers ou dans les bambous. Et je vous invite à venir chez moi le savourer. C'est difficile d'entendre les palmiers ici. Les sapins ne chantent pas bien. Mais vous voyez, encore là, j'entends ce son et je me rappelle d'un autre son. Et il y a des pensées et des souvenirs et des sensations, des sentiments qui arrivent. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne l'avez pas vécu. Et de la même façon, je ne peux pas comprendre comment un sapin chante parce que je ne l'ai pas entendu chanter encore. Nous sommes le 25 octobre 2019 et nous sommes à la Villa Saint-Martin et c'est la 29e, 30e retraite que nous tenons ici. Et le thème de la retraite, c'est la lumière de la pleine conscience. Nous poursuivons notre grand programme d'études des 4 ans. Nous avons un programme continu ces 4 ans qui se répète à toutes les 4 années. Et cette année, le thème d'étude pour l'année sera le Sutra du Lotus. Donc, la lumière de la pleine conscience est tout notre programme d'études de l'année, c'est-à-dire de septembre jusqu'au mois de juin. Nous allons ensemble étudier un grand sutra, très beau, super profond. C'est un si beau sutra, puis le nom, Sutra du Lotus, en vietnamien, la kayeti. Donc, le nom... du sutra, et je vais demander à Lily de nous faire une meilleure une meilleure traduction pour d'ici la fin de la retraite. Non, d'ici la fin de l'année. Mais le titre original, c'est Yehophab. Yehophab, c'est le nom de ma mère. Son nom du dharma, c'est Yohei. Et elle fait partie d'une lignée bouddhiste où Yo a un sens qui est... Comment tu le traduirais, vous? Yo, c'est un miracle, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est... Mais pas dans le sens pff, c'est dans le sens calme et profond. La providence. Ok, donc essayez de trouver une bonne traduction pour Yo. Et Yo, c'est une qualité, c'est une... Et lorsque quelqu'un a cette qualité, ça se reflète en elle. On peut le voir. Vous savez, dans l'histoire du bouddhisme, après le paranirvana du Bouddha, c'est-à-dire après qu'il s'est éteint, ou bien après qu'il ait changé de forme, ses élèves se sont rassemblés pour pouvoir réécrire, essayer de réécrire, ou bien de, pas de réécrire, mais de répéter ses enseignements. Et dans le premier concile, Ananda, qui était son ombre, Ananda était son assistant, son adjoint, et le suivait partout, depuis le début de son enseignement jusqu'à sa dernière respiration. Alors il entendait tout, et puis... Il était au courant, il avait une très bonne mémoire de tout ce que le Bouddha a enseigné durant toute sa vie. Mais quand le conseil a choisi de se réunir, il a été refusé. Ils ont dit, tu n'as pas la qualification parce que tu n'es pas encore éveillé. Mais il a donné comme son dernier effort et le lendemain, quand le conseil s'est réuni, il a apparu et ses compagnons l'ont regardé et puis l'ont dit « Ok, tu peux rentrer maintenant, tu l'as eu. » Maintenant, je ne sais pas comment qu'est-ce qui fait que quelqu'un l'a ou ne l'a pas, I don't know. Mais ceux qui l'ont reconnaissent ceux qui le sont. Alors, le conseil a reconnu qu'Ananda s'est éveillé pendant la nuit, de la même façon que lorsque le Bouddha s'est éveillé et qu'il a rencontré les enfants qui venaient le voir à chaque matin. Alors, pendant que le Bouddha s'est... Les enfants qui venaient pour rencontrer le Bouddha et jouer avec ont reconnu son éveil. Et lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes plus le même. Vous avez changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Et le Bouddha a dit, j'ai vu la vérité. Voir la réalité, les enfants l'ont vu. Alors c'est quoi, je ne sais pas, qu'est-ce qui a changé dans le Bouddha, est-ce qu'il a grandi de 3 pieds? I don't know. Mais, ce qui se dégage de cette personne. Vous savez, dans notre vie, on rencontre des personnes, et tout d'un coup, on se sent bien avec. Et on voudrait être près de cette personne tout le temps. Et lorsque les enfants ont demandé au Bouddha qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'il l'a dit... Je me suis éveillé, j'ai vu la réalité. C'est cette qualité que le mot Yéhu représente. Alors ce n'est pas quelque chose qui est descriptif, on peut le sentir, on peut le voir, et c'est une impression, mais qui ne trompe pas. Et ça se reflète dans... La façon dont la personne se tient debout, marche, sourit, etc. Et un des critères, c'est le sourire. Alors donc hier quand je vous ai parlé du sourire, je l'ai dit pratiquer. Et il y a une chose pratiquer, et pratiquer veut dire le faire. Le faire, le refaire, afin de le perfectionner. Et le faire et le refaire de façon à ce que ça devienne Dieu. Hier, j'ai entendu aussi Marielle. Et vous voyez, lorsque Marielle a pris son coussin, elle a... dans notre vie de tous les jours, c'est toujours ce qu'on voit. Et lorsque nous sommes ici pour pratiquer, nous regardons ces choses-là, ou bien nous voyons ces choses-là. Et ça dénote le degré de pratique de la pratiquante ou du pratiquant. Et lorsque je dis degré, ok, j'arrête là, parce que je me sens sur un terrain glissant. Mais ce que nous pratiquons, ou bien notre... Vous voyez, les vestes brunes font partie de... Souvenez-vous, c'est un mot très important. Interêtre. Je vous avais dit que ça fait 30 ans que je fais partie de l'ordre de l'interêtre. Et c'est aussi la définition que notre maître, Thich Nhat Hanh, du bouddhisme. Alors dans les années 60, ce mot n'existait pas encore. Et Thay assistait à une conférence interreligieuse mondiale. Et chaque représentant de chaque religion prenait tour à tour pour expliquer autour de la table l'essence de leur faith, de leur religion. Et, ok, vous avez entendu dire que le bouddhisme n'est pas une religion. Alors, de toute façon, alors, ils étaient là et chacun parlait de leur faith, croyance. Et donc, mon Dieu est le meilleur, ton Dieu n'est pas aussi grand que le mien, etc. Mon Dieu a donné naissance à ton Dieu. Mais vous, ok. Et arrive le tour du bouddhisme. Taïdi, j'ai juste un mot à vous proposer pour décrire notre foi, c'est interêtre. Et Thay a pris l'exemple de la table autour de laquelle ils sont assis. Et il dit, je vous invite à observer cette table et regarder d'où provient cette table. Cette table était un arbre avant, etc. Puis un arbre qui a profité de la pluie, du sol, du soleil, etc. Il y a aussi le bûcheron, ou bien celui qui a coupé l'arbre. Et donc, intérêt, c'est il n'y a rien qui peut être ou bien exister de soi-même. Et que tout dépend de tout le reste pour pouvoir se manifester. Alors de la même façon, nous ne sommes pas, mais nous intersommes avec tout ce qu'il y a. Et j'amène cela parce que on dépend de tout ce qu'il y a autour de nous. Notre assise de méditation, si elle peut être tranquille ou non, dépend de la qualité de notre coussin et de l'énergie que le coussin retient. Alors, lorsque le coussin était malmené, cette violence reste dans le coussin. Et cette violence qui est dans le coussin nous affecte aussi. Et c'est pour ça que nous voulons infuser notre calme et notre sérénité, notre amour, avec tout ce qui nous entoure. Parce que nous sommes continuellement en contact avec tout ce qu'il y a autour de nous. Alors la façon dont nous marchons, la façon dont nous respirons, nos pensées, et ça s'appelle le karma. Corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Lorsque je fais comme Lily, et que je tourne, et que je place mon coussin, je salue le coussin. Il y a en moi toute cette gratitude que je touche. Je touche cette gratitude parce que je remercie le coussin de m'avoir aidé à avoir une bonne session de méditation. Le coussin est tout content, je ne sais pas. Mais lorsque je le fais, je suis le premier à bénéficier de cette tendresse, de cette communion, de cette gratitude, de ce respect. Et c'est pour ça que lorsque nous pratiquons, lorsque nous regardons un pratiquant, nous pouvons voir par ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Ou bien comment est-ce qu'on peut, en contrôlant l'extérieur, améliorer ce qu'il y a en nous. Gilles m'a partagé quelque chose que je peux vous partager aussi. Il a été dans une retraite à Blue Cliff et il a beaucoup aimé un enseignement qu'il a reçu. Et la moniale qu'il a donnée lui a dit, tu sais, lorsque je place le coussin de ma cloche, je la plie et donc c'est très délicat, c'est très ordonné. Parce que lorsque l'extérieur, c'est mon cœur qui l'est aussi. Alors donc, nous pratiquons pour la forme, nous pratiquons par la forme. De la même façon que j'ai essayé de pratiquer le sourire. Et c'est la même pratique lorsqu'on pose notre coussin, c'est la même pratique lorsqu'on marche, c'est la même pratique lorsqu'on mange. La pratique de la pleine conscience. Mais il y a une différence entre pratiquer et être. Vous comprenez? Est-ce que vous faites de la bicyclette? Vous savez comment? Oui. Allez-vous au travail avec? Je savais. Non, on reflète notre vie et on reflète nos activités. Nos activités. Lorsque j'ai eu la chance de rencontrer mon maître, je n'ai pas besoin de lui parler beaucoup. Il regarde la façon dont je rentre, je m'assois, puis il sait tout ce que j'ai fait depuis toute l'année. Vous souvenez-vous comment c'était quand vous avez commencé à apprendre? Vous deviez faire très attention. Vous étiez en pleine conscience, parfaitement concentré pour pouvoir faire de la bicyclette. C'est la même chose ici. Francis, je ne vais pas te demander ton âge parce que je ne veux pas te gêner devant tout le monde, mais te souviens-tu de comment c'était faire tes premiers pas? Bonne réponse. Puis comment c'était quand tu as commencé à remarcher? Et comment tu fais maintenant? En fait, c'est une très bonne réponse, mais la question c'était les premiers pas lorsque tu avais un an. Je pense que vous allez retrouver le même feeling que Francis lorsque vous allez pratiquer la marche dehors. Ça va être chambranlant, de la même façon que pour la bicyclette. Vous souvenez-vous de quand vous avez oublié que vous pédaliez? Et puis que vous étiez toujours en bicyclette à votre arrivée. Alors, donc, vous avez pratiqué et c'est devenu une compétence et une envolée. Et c'était le pilote automatique qui a embarqué. Merci Marie-Ève d'être là. Et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour les 29 dernières retraites. Vous voyez, c'est un rappel à nous, pour nos amis, ce que c'est que cette pratique. Nous commençons par une pratique. On devient, on s'habitue et on oublie. Alors, lorsque nous revenons dans une retraite et tous nos amis en veste brune enseignent dans une famille. Et je regarde l'horaire et je vois finalement que je n'ai plus grand-chose à faire dans les retraites parce que mes amis le font pour moi. Vous voyez, on pratique l'inter-être. Alors lorsqu'ils sont là et qu'ils vous enseignent, ils sont là, mais je suis là aussi. Je suis là en travers d'eux. Et si je suis là en travers d'eux, c'est que mon maître est là aussi. Et ce que vous entendez d'eux, ce n'est rien de moins qu'un enseignement du Bouddha. C'est cela l'inter-être. Et parce que c'est l'inter-être, et parce qu'on sait qu'on fait partie de cette chaîne, de ce filon, de cette lignée, nous avons une responsabilité. Ils ne peuvent pas vous dire n'importe quoi. Et ils ne peuvent surtout pas dire ce qu'ils ne font pas. Alors lorsqu'ils sont ici et qu'on leur donne la responsabilité d'une famille, ils doivent être le modèle de la pratique. Et c'est quoi la pratique? C'est quoi être le modèle de la pratique? C'est qu'il faut que nous soyons la pratique, que nous incarnions, que la pratique soit nous et qu'on soit l'image de la pratique. Et c'est très facile maintenant pour moi de faire les retraites parce que je n'ai rien à faire. Tous mes amis sont là et tous mes amis sont en train d'enseigner par la façon dont ils marchent, par la façon dont ils posent le coussin. Et vous êtes là pour pouvoir profiter de toute l'expérience qu'il y a ici. Et vous êtes là aussi pour nous rappeler ce que nous devons être pour pouvoir être là. Donc, traduction, Yéhovah Léhoakun, Kun c'est Sutra. Yéhovah c'est le merveilleux enseignement. Léhoa c'est la fleur de lotus. Alors, c'est la traduction littérale, mais je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux. Notre programme de 4 ans, c'est toujours pour, ou bien à la base, les 37, comment ça s'appelle, Lily? On a 37 enseignements, et dans les 37, il y a les 7. Les 7 facteurs de l'éveil. Durant cette retraite, nous allons regarder les 7 facteurs d'éveil. Et ce matin, de quoi est-ce que je vous ai parlé? Ce matin, je vous ai parlé de l'éveil. Qu'est-ce que le Bouddha a eu? Qu'est-ce qu'il lui a piqué? Quelle mouche lui a piqué pendant la nuit pour qu'il change le... Ils sont complètement différents le lendemain. L'éveil. L'éveil du Bouddha, le grand éveil, comment est-ce qu'il y est parvenu? Par sa pratique. Et sa pratique, ou bien c'est quoi les sept facteurs d'éveil. Qu'est-ce qui contribue à l'éveil? Qu'est-ce qui peut que nous pouvons pratiquer pour pouvoir atteindre cet éveil? Le premier, et c'est de ça que j'ai parlé ce matin. La pratique de la pleine conscience, ou bien la définition de la pleine conscience. Tout forme, c'est différent, ok? La pleine, ok. On a fait un cours ensemble, c'était très très intéressant, mais on a donné un atelier de fin de semaine. C'est tout forme qui l'a fait, j'étais juste là assis. Elle a tout fait encore. Et elle nous a donné une définition de la pleine conscience dont je ne me souviens pas, mais elle pourra vous le donner. Ici, la pleine conscience, selon notre enseignement, c'est notre capacité innée de pouvoir être présent et en contact avec tout ce qui est en train de se passer. En nous et autour de nous. C'est ça. Notre capacité innée à pouvoir être présent et en contact avec tout ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. Alors, lorsque je vous ai parlé du tracteur, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes arrêtés pour reconnaître que nous sommes en contact avec et avec tout ce qu'il y a, il y a également ce son. Et ce son est tout ce que ça fait en nous. Et je vous ai parlé de la manifestation, comment est-ce qu'on agit, comment on réagit, comment on est avec notre environnement et l'interaction qu'il y a. Et la pleine conscience, c'est de pouvoir être présent pour savoir tout ce qui est en train de se passer là. Et c'est peut-être la pleine conscience avec le grand P et le grand C. Et la pratique de la pleine conscience, c'est une pratique qui commence par l'arrêt. Lily vous a parlé de la cloche. Et la cloche qui nous rappelle et qui nous ramène à l'instant présent. Alors, lorsqu'on entend le son de la cloche, on arrête tout ce qu'on est en train de faire. On inspire, on expire. Et c'est une pratique de s'arrêter pour revenir. Parce que notre tendance, notre habitude, ce n'est pas d'être ici, c'est toujours d'être dans le futur ou bien d'être dans le passé. Mais le futur n'est pas encore là. Et le passé, il est déjà passé. Et parce qu'on est toujours soit dans le passé, soit dans le futur, on manque l'instant présent. On ne peut pas être dans le présent. On n'est pas dans le présent. Et lorsqu'on n'est pas dans le présent, on est en train de gaspiller quelque chose qui est merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux et qu'on manque lorsqu'on est dans le passé, dans le futur? La vie. On est en train de respirer. Pouvez-vous imaginer toutes les conditions que ça prend pour pouvoir respirer? C'est cela, la pleine conscience. Être en contact et savoir ce qui est en train de se passer. J'inspire et je sais que j'inspire. Nous pouvons utiliser le mot miracle. la bouffée d'air que vous venez de prendre, d'où est-ce qu'elle vient? Ah, au bas, les grandes forêts de l'Amazonie. C'est notre réservoir d'oxygène. L'air que nous inspirons, ça vient de là. Toutes les conditions qui vous permettent encore de pouvoir respirer. Vous avez des poumons encore qui fonctionnent. Vous avez encore un cœur qui bat, qui vous soutient là, qui vous permet de pouvoir encore respirer. Respirer est un miracle. C'est une merveille. Et on respire comme si de rien n'était. Jusqu'au jour où on ne pourra plus respirer. Et là, on ne le saura plus. Mais maintenant, on peut encore savoir ce que ça c'est. On peut encore reconnaître le plaisir, le bonheur, le miracle de pouvoir respirer. Respirer, c'est un message. Un message de l'univers qui nous dit que nous sommes encore là, que nous sommes encore en vie. Et si pouvoir encore être en vie n'est pas suffisant pour nous rendre heureux, qu'est-ce que nous attendons pour pouvoir l'être? Alors la pleine conscience, c'est pour pouvoir nous arrêter, revenir et nous mettre en contact avec tous les miracles, toutes les merveilles qui sont en train de se passer et que nous, qu'on gaspille, qu'on ignore. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et lorsqu'on peut toucher à ce bonheur, à ce plaisir, on refuse tout ce qui peut nous enlever cette grâce et cette présence. La vie est belle, la vie est remplie de miracles. Chaque instant est un trésor et nous le gaspillons. La pleine conscience, c'est cette clé qui nous permet de pouvoir nous ramener et réclamer notre héritage. Parce que ça nous est donné. À chaque matin, ça nous est donné. Comment est-ce que nous les utilisons? Je me lève en souriant pour accueillir 24 heures toutes nouvelles. Je reçois cet héritage à chaque matin. 24 heures toutes nouvelles. 24 heures où je peux être pleinement heureux à chaque respiration, à chaque pas que je fais. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je suis habitué à être emporté par le futur ou être pris dans les regrets du passé. Et je gaspille toutes ces heures et ces minutes et ces respirations et ces pas qui me sont donnés à chaque matin. Lorsque vous venez dans cette retraite, nous vous invitons à revenir à l'instant, à chaque instant, pour pouvoir réclamer cet héritage qui vous est donné à chaque jour de votre vie, à chaque jour qui vous reste encore à vivre. J'inspire, je me calme, j'expire, je souris. Je reviens à l'instant présent. Cet instant est le plus beau moment de ma vie. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, j'ai cet instant, j'ai cette respiration et c'est la meilleure chose qui est en train de se passer. C'est ça notre pratique. Ça fait 30 ans que j'essaie de la pratiquer. Et je vous remercie d'être là, parce que c'est vous qui m'aidez à être dans la pratique. lorsque je suis ici et que je regarde le plan de retraite avec Chenhui. Yeah. Parce que si je n'étais pas ici, je ne serais pas où je pourrais être. Mais c'est le meilleur endroit pour moi où je peux être avec vous pour pouvoir pratiquer. Pratiquer et faire du mieux, ou bien faire pour le mieux de cette journée, de cette fin de semaine. Et je sais que je suis en train de passer le meilleur moment de ma vie maintenant avec vous. Donc, lorsque nous respirons, nous nous arrêtons nos pensées, nous revenons à notre respiration et nous apprécions le fait de pouvoir respirer. Il y a un livre que mon maître a écrit, « Respire, tu es vivant ». Breathe, you are alive. Et c'est ça qu'il veut dire. Respire et tu sais. Ok, la chanson, elle est très belle. Et la chanson a été écrite par Sœur Annabelle, qui a été, tantôt, Tignou nous l'a rappelé, c'est elle qui a dirigé la première retraite ici, c'est ça, en préparation de la venue de Thaï en 2005. Thaï enseignait les 16 respirations, l'Anapanasati Sutra. Et Sœur Annabelle, c'est vraiment une scholar, elle a pris tout le sutra. Et elle a écrit cette chanson. Et la chanson, apprenez-la, parce que c'est un résumé, ou bien c'est l'Anapanasati Sutra, écrit en poésie et en musique, en anglais. Donc la pratique. Parce que c'est une pratique, ce n'est pas facile. Et lorsque ce n'est plus une habitude, non. Donc, notre pratique pendant la retraite, vous verrez que toutes les pratiques peuvent se résumer à l'arrêt, au retour à l'instant, pour pouvoir toucher à la joie de l'instant. Et j'ai déjà résumé notre pratique lorsqu'on demande c'est quoi la pratique de la MPC ou du village des Pruniers. Je dis c'est la pratique de la joie. De la joie dans l'instant, de l'instant pour l'instant, à chaque instant. Aussitôt que nous pratiquons, la joie est là. Et lorsque nous pratiquons la joie grandit. Et c'est pour ça que je dis que nous pratiquons la joie pour la joie. Et comment est-ce que nous pratiquons la joie? En pratiquant la joie. Mais la joie, comment est-ce qu'elle peut être? Ou bien elle, c'est lorsque nous sommes arrêtés et que nous pouvons être avec. Et c'est pour ça que c'est la pratique de l'arrêt, pour retourner à l'instant, pour toucher à la joie de l'instant. Et lorsque nous sommes, ok, une autre pratique que je ne sais pas si je ne l'ai pas entendue hier, c'est la pratique de la nourriture en pleine conscience. Oui, des repas en pleine conscience. Alors nous allons, après cette activité, nous aurons l'occasion de pratiquer la marche méditative. On peut aller là-bas, en parlant, ou bien on peut y aller en faisant attention à chacun de nos pas. Mais pas en faisant attention parce que quelqu'un nous regarde ou bien parce qu'on... Mais apprécier le fait de pouvoir marcher sur vos deux pieds. Lorsque je parle de marcher en pleine conscience ou lorsque je suis avec mes pas, j'ai raconté ça à mes amis, puis je m'excuse de me répéter, je me répète tout le temps. Mais à la fin de ma carrière, j'ai travaillé pour les forces canadiennes, dans le service de santé. Et la dernière guerre dans laquelle on a été impliqué, on était sur le front, on n'était pas juste les bérets bleus, mais on était là. Et nos soldats, des fois, revenaient avec leurs bottes et leurs pieds à côté d'eux, dans un autre sac. Des fois, il arrivait à les remettre, mais bien plus souvent, ils ne pouvaient plus marcher sur leurs pieds. Et l'armée canadienne est très bonne. On les équipe de faux pieds et exercices et puis tout ça. Et il y en a qui ont un moral, waouh, mais ils font des compétitions de sport sur leurs pieds. Et je pense qu'ici, il n'y a personne qui pourrait compétitionner contre eux. Mais tout ça pour dire que avoir nos deux pieds pour pouvoir marcher, et marcher sur cette terre est un miracle. Et c'est le titre de notre livre de mon maître, le miracle c'est de marcher sur cette terre. Et c'est un miracle que de pouvoir marcher. Et si nous pouvons reconnaître ce miracle, on ne voudra plus jamais ne pas marcher dans la terre pure ou bien dans le royaume des dieux. C'est merveilleux de pouvoir marcher sur cette terre. Lorsque vous allez marcher dehors, vous n'avez pas à vous en faire parce qu'il n'y a pas de pont. Et ceux qui sont à la guerre marchent de façon très consciente parce qu'ils peuvent marcher sur n'importe quoi et ça peut péter. Ici, nous pouvons marcher librement, aisément. Et vous voyez, c'est ça, la pratique. Et la pratique et la pleine conscience et la pleine conscience, ce n'est pas la même chose. Marcher dans la peur, marcher en faisant attention, c'est la pleine conscience. Mais ce n'est pas la pleine conscience que nous pratiquons ici. J'ai eu un Viber d'un ami du Vietnam et il m'a fait parvenir un message d'une amie commune. Elle s'est faite enlever son sac, parce que, en tout cas, découpe. Et je m'imagine la scène. Et je me dis, ceux qui font ces coups-là, ils sont très conscients de tout ce qu'ils font, de chaque geste, parce que comment est-ce qu'on peut arriver à faire un pickpocket si on n'est pas pleinement présent avec chaque action, chaque chose qu'on fait? Ils doivent être très bien coordonnés, comme l'un prend, puis l'autre bloque ou bien. Je ne sais pas, j'ai jamais pratiqué ça, mais j'imagine que si je voulais faire ça, je devrais m'entraîner comme il faut, sinon je me serais prend tout de suite. Right? Alors la pleine conscience d'un pickpocket ou la pleine conscience d'un soldat, ce n'est pas la pleine conscience que nous pratiquons ici. C'est quoi la différence? La pleine conscience que nous pratiquons, c'est la pleine conscience qui amène à l'éveil. Et qu'est-ce qu'il y a avec l'éveil? Il y a cette reconnaissance de l'inter-être. Il y a beaucoup d'amour et de compassion. Il y a la liberté. Un pickpocket ne peut jamais être libre. Il peut être pris, si c'est un bon pickpocket de cœur, il peut être pris par des regrets. Il regrette, j'aurais pu, etc. Il peut aussi se faire prendre par la police, et puis là, ça sera vraiment pas gai. Il ne sera pas libre, ou il ne pourra pas être libre. Mais la pratique que nous faisons, c'est une pratique qui nous permet de... Liberté, liberté, liberté. Donc c'est la pleine conscience qui amène à l'éveil. L'éveil comment? L'éveil on... Donc la pleine conscience, c'est ça aussi. C'est être présent avec ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. Et en nous, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il y a ce corps, il y a ces idées, il y a ces sensations, ces perceptions, et c'est de pouvoir être avec pour pouvoir les identifier. Et c'est cela la pleine conscience. Et la pleine conscience qui mène à l'éveil, c'est justement de reconnaître ce qui est là et les laisser partir. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas conscient de cela? On est entraîné par... Alors donc c'est un stimuli. Un stimuli qui commence une chaîne de réaction. Et on se laisse emporter dans nos idées. La fermière, Pierrette, la laitière... Est-ce que tu vas retrouver l'histoire? Et la pratique de la pleine conscience, c'est ce qui nous permet de pouvoir l'identifier, regarder et la laisser partir, s'arrêter avec. Mais revenir à l'instant. Revenir avec ce qui est en train de se passer et laisser les idées. Et Lily avait un poème pour ça. Les idées sont comme des nuages dans le ciel. Ça passe et le pratiquant les regarde, sait qu'elles sont là et les regarde passer. Le non-pratiquant s'accroche après et le suit et se laisse emporter. Et se laisse emporter et perd sa liberté. Je viens de parler de concentration. Il y a pleine conscience, il y a concentration. Et la pleine conscience permet d'être avec et de choisir avec quoi on veut être. Et on choisit un objet de méditation. On reste avec et ça s'appelle la concentration. On sait tout ce que c'est que s'arrêter. On sait tout ce que c'est que de respirer. Combien de fois, combien de temps peut-on le faire? Je ne suis pas un bon pratiquant, mais vous savez comment j'ai commencé à respirer. Et dans le temps où on le faisait, je le faisais avec Lily aussi. J'inspire, un. J'expire, un. J'inspire, deux. J'expire, deux. J'inspire 3, j'expire 3. J'inspire 7, j'expire. Où est-ce que j'étais? Retourne à 1. Essayez de le faire de 1 à 10. De 10 à 1. De 1 à 10. De 10 à 1. Et regardez où votre esprit va s'en aller. J'étais très fier quand je suis arrivé à 5 Et c'est cela la pratique. C'est de revenir et rester avec. Lorsqu'on va être avec notre repas, c'est la même pratique. Je suis devant mon assiette vide. Mon assiette vide va se remplir, pleine de bonne nourriture. Je regarde la nourriture afin de voir d'où elle me provient. Et lorsque je regarde avec cette concentration, je peux voir d'où provient cette merveilleuse nourriture qui va me nourrir. Cette nourriture est le fruit du dur labeur de toutes les espèces. Et je peux reconnaître tout le cycle de la vie qui l'a amené ici et qui va se poursuivre en nous pour se continuer. Le repas en pleine conscience, c'est une pratique d'arrêt. Être là, se concentrer pour pouvoir observer l'inter-être. Et l'inter-être est en train de se passer partout. Et c'est cela l'ultime réalisation qui nous permet de pouvoir transcender toutes nos souffrances. Juste le vaisseau T. Donc on choisit un objet d'observation et on se concentre. Et lorsqu'on peut se concentrer assez longtemps en observant cet objet d'observation, il y a des choses qui vont se révéler, qu'on va pouvoir voir et qu'on ne peut jamais voir parce qu'on est continuellement en train de penser d'être, de ne pas être là. C'est seulement par la concentration que nous pouvons voir. Un ami du Texas qui est décédé déjà, c'est un Ouai et c'était un des animateurs facilitateurs de Masanga à Austin. Il s'appelle John et c'est un homme très intelligent, un des directeurs du réseau de Montessori aux États-Unis. Il a eu une fin très pénible. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, mais ça vous commence à... Ok, je ne sais pas, une maladie de quelque chose. Et ça arrive graduellement, puis ça lui a pris 3 ans. Et il paraît que la dernière chose qui va s'arrêter, c'est les poumons. Donc tout le corps part, et finalement on ne peut plus respirer. Et il a été... Jusqu'à sa fin, la dernière retraite qu'il a faite, c'était peut-être 2-3 mois avant son départ. Et je sais que lorsque nous sommes dans ces états-là, je ne le souhaite à personne, mais on ne peut plus rien faire. On peut juste penser. Et c'est là la pratique ou la non-pratique. Dans ces conditions, pouvons-nous encore respirer? Ah, ok, yes. Pouvons-nous encore apprécier le fait de pouvoir encore respirer? Yes. Et là, on voit la vie se dérouler. C'est un peu comme la méditation du Bouddha, ces 40 derniers jours. Il regarde la vie se dérouler. Il y a beaucoup de visions et visions d'intelligence, wisdom, qui parviennent de ces réflexions. Alors chaque fois que j'ai la chance d'aller à Austin pour donner une retraite, je l'invite à parler. Et il nous partage ses plus profondes. Et ce n'est pas des lectures, ce n'est pas théorique, c'est sa vie. Elle m'a dit, tu sais? Non. Ok, vous savez. Vous parliez souvent de d'arrêt, concentration, etc. Il y a une image qui m'est revenue. C'est lorsque j'atterrissais, parce qu'il voyageait souvent. À chaque fois que je retourne d'un voyage en avion, je regarde par la fenêtre et je vois les choses se dérouler. Lorsqu'on approche de la piste, je vois les maisons qui... Et lorsque c'est sur la piste d'atterrissage, elle fuit. Et peu à peu, les choses se ralentissent. Et lorsque c'est arrêté, je peux voir beaucoup plus précisément que lorsque... Est-ce qu'on est en train d'être dans un jet? Est-ce qu'on est en train d'atterrir? Est-ce qu'on est sur la piste? Est-ce qu'on est arrivé au point de notre vue, notre vision de ce qui est autour de nous change? On ne perçoit plus les mêmes choses de la même façon. Il m'a dit, tu sais, après ça, je m'en vais dans un Uber. Non, dans le temps, Uber n'était pas encore là. Ma femme me prend dans la voiture, puis je regarde les champs défiler, je vois les... Et tu sais quoi? En fin de semaine, lorsque je suis en pique-nique avec elle, puis je suis à bicyclette, c'est encore, waouh, très différent. Parce que je peux voir des choses que je ne peux pas voir lorsque je suis en voiture. Et tu sais quoi? Lorsqu'on prend notre sac à pique-nique et qu'on déroule le truc, et puis que je suis allongé par terre, et que je me retourne pour pouvoir regarder l'herbe et le sol, je vois des petites fleurs que je ne peux jamais voir. Que je ne pourrais jamais voir lorsque je suis debout. Arrêt, pleine conscience, observation, mais aussi concentration. Regardez profondément pour pouvoir voir. Et qu'est-ce que le Bouddha nous enseigne de regarder? Ce n'est pas un micro. Notre vie et nos souffrances. Pourquoi vous êtes ici? Pour mieux profiter de ma vie. Donc il y a des choses que vous voulez overcome, améliorer. Okay. Donc c'est une situation de unease, mal-être, que vous voulez améliorer. Pour pouvoir être mieux. Mais c'est quand même une chose à observer, à regarder. Et c'est cela la première pratique. S'arrêter pour pouvoir constater, pour pouvoir regarder, pour pouvoir voir. Et c'est la première noble vérité. C'est ça. Pourquoi nous nous arrêtons? Nous nous arrêtons pour pouvoir mieux voir. Comment est-ce qu'on peut mieux voir? En étant concentré. En étant concentré, en maintenant notre regard, notre observation, on va pouvoir voir la chose. Et voir la chose veut aussi dire voir toutes les conditions qui l'ont apportée. Alors dans ce cas-là, je sais que les choses sont bonnes, mais pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas être meilleures? Ou bien... qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir pleinement goûter ça? Donc c'est regarder. Regarder pour pouvoir savoir pourquoi. Et regarder les causes qui l'ont amené. Et Lily nous a préparé un excellent document avec ce qu'elle nous a donné. Et je pense qu'il y en a encore sur la table. Mais elle a résumé les quatre nobles vérités. Et c'est la raison pourquoi je me suis engagé dans cette voie. Et c'est pour ça que je continue d'être sur cette voie. Je suis arrivé avec une souffrance, avec beaucoup de souffrance. Et c'est cette pratique d'arrêt qui m'a permis de comprendre que les malheurs dans lesquels j'étais, les souffrances dans lesquelles j'étais, ce n'est pas le monde qui en est responsable. C'est moi qui les ai créés par la vie que j'ai menée. Et je n'ai pas fini. Je souffre encore. Et à chaque fois que j'ai une souffrance et que je me souviens de pouvoir m'arrêter, ne pas me laisser emporter, ensevelir et engloutir par mes malheurs, et que je peux m'arrêter, je peux être là et être en contact avec tout ce qu'il y a de bon et de... Pourquoi je me mets en contact avec tout ce qu'il y a de bon? Pour pouvoir me nourrir et pour pouvoir me donner la force et la stabilité pour aller en profondeur et regarder les choses qui ne vont pas bien. Et je n'ai pas fini. J'en ai pour des milliers de vies à venir, mais à chaque fois que je peux le faire, j'en sors et avec... Et waouh, et beaucoup plus de confiance dans la pratique. C'est quoi mes malheurs? C'est quoi mes souffrances? Et je sais que ma pratique, c'est la pratique de la liberté. Mais elle ne m'empêche pas de m'attacher et j'en souffre. Alors je me souviens de ma pratique et je regarde ma souffrance et je le partage avec Lily. Puis je dis, tu sais, c'est merveilleux, je peux encore souffrir. C'est vrai, c'est merveilleux. Vous savez pourquoi? On ne peut pas souffrir si on est mort. Avoir la chance de pouvoir encore souffrir. Mais ce n'est pas cela que je veux que vous alliez. Je veux vous indiquer le chemin que je suis en train de prendre, c'est-à-dire celui qui me permettra de sortir de la souffrance. Et je me suis aperçu qu'il n'y a pas de place où il n'y a pas de souffrance. Mais c'est comment nous pouvons vivre la souffrance. Et nous pouvons, durant cette retraite, apprendre deux choses. L'art de vivre en pleine conscience. Et l'art de vivre en pleine conscience veut aussi dire l'art de souffrir. Vous imaginez-vous un monde sans tartare? Oh. Avec des buffles? Yeah, comme c'est romantique. J'ai lu dans les contemplations pré-retraite plusieurs ou quelques personnes qui se questionnent sur leur relation de couple. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance que j'ai vécue. C'est une souffrance que je n'ai pas très bien gérée. Ou bien que j'ai bien gérée. I don't know. Mais... je ne souffre plus en relation de couple parce que je n'ai plus de couple. Il y a un couple ici, nos deux amis qui ont chanté, qui sont en train de donner un atelier de 8 semaines sur la relation de couple. Dans la vision normale du monde, on part du point A pour aller au point B. Dans notre pratique, c'est la pratique du cercle. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de destination. On est en train de faire une 30e retraite. Et j'espère que c'est aussi bon pour les premières fois que pour les 30e fois. C'est bon du début jusqu'à la fin et au milieu et on recommence. Alors, ne vous en faites pas.